Nous refusons d'abandonner les droits d'auteur, les droits voisins. Nous allons saisir l'autorité de concurrence française et nous allons porter plainte pour abus de position dominante, puisqu'au fond, 95% des recherches sur Internet sont faites via Google, et nous nous indignons qu'une entreprise puisse se placer au-dessus des lois.
Voilà, la presse française a perdu une bataille contre Google, mais elle repart en guerre, comme le dit à l'instant Marc Feuillet, le président du syndicat national de la presse quotidienne nationale. La réponse du géant américain à la directive européenne sur les droits voisins, c'est un double bras d'honneur à la souveraineté européenne et à la démocratie. Le nouveau mécanisme qui devait entrer en vigueur cette semaine en France n'est pourtant qu'un juste retour des choses. Il permet aux éditeurs de presse de négocier avec les géants du numérique la rémunération des contenus qu'ils utilisent. Logique, une information de qualité coûte cher à produire, il est donc normal que les recettes publicitaires qu'elle génère sur le net reviennent en partie à ceux qui la produisent. Des années que les médias, comme les artistes d'ailleurs, se battent pour ça, pour sortir du modèle actuel de gratuité qui ruine nos journaux. Ce dont le géant américain n'a cure, évidemment, lui dont le seul objectif est de générer le maximum de trafic. Et donc pour Google, c'est très simple, les médias qui réclament une rémunération verront leur contenu réduit. Alors plus simple expression, plus de photos, plus de textes, juste un titre. Quand on sait l'importance des moteurs de recherche dans la consultation des articles de presse, autant dire qu'aucun journal ne pourra résister. D'où la plainte déposée cette semaine devant l'autorité de la concurrence par la presse française qui appelle le gouvernement à repartir à la bataille. Nous ne laisserons pas faire, avait d'ailleurs déjà dit il y a quelques jours le président de la République en promettant d'engager toutes les procédures européennes possibles contre Google, soulignant également au passage que la valeur ne réside pas seulement dans le tuyau face aux campagnes de désinformation qui fleurissent sur le net et que relaient sans contrôle les moteurs de recherche. C'est effectivement une raison de plus pour rémunérer ceux qui font le boulot à leur place.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Yves Decan.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée donc à l'écho. Ce sera la première souscription d'action publique depuis 14 ans. Le 7 novembre sera lancée l'opération de privatisation. Certains préfèrent parler de concession. Opération de privatisation de la Française des Jeux dont l'État va céder 52% de ses parts. Il en gardera 20%. En attendant, peut-être l'année prochaine, son désengagement partiel d'ADP et plus tard encore d'Engie. Pourquoi? Comment? C'est ce dont on parlera avec notre invité Martin Vial, commissaire aux participations de l'État. L'occasion de rappeler que ce mouvement de privatisation, d'ailleurs, n'est pas nouveau, lancé en 86 par Jacques Chirac et poursuivi depuis par tous les gouvernements de droite et de gauche. Alors, avec quels effets les avis sont partagés? C'est un dossier que nous proposera tout à l'heure Manuel Ruffez. Avant cela, nous aurons débattu, bien sûr, d'un autre dossier important, éclipsé d'ailleurs ces dernières semaines par la réforme des retraites. Et pourtant, le 1er novembre, vendredi prochain, entrent en vigueur les nouvelles règles de l'assurance chômage, dont vous nous direz ce qu'il faut en penser. Emmanuel Lechypre et Vincent Grimaud, bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour à tous.
En un mot, l'un et l'autre, qu'est-ce qu'il faut en penser?
Pas des bonnes choses.
Pas des bonnes choses pour Vincent Grimaud d'Alternative Économique et pour Emmanuel Lechypre, BFM
non,
Business.
Ça va dans la bonne direction, mais les équilibres sont effectivement pas toujours bien ajustés.
Voilà, il y a à prendre et à laisser, comme toujours, à 10h-5. Ma vie au boulot, ce sera bien sûr avec vous, Sandrine.
Bonjour Yves.
Sandrine Foulon, et vous reviendrez sur la question des aidants.
Oui, ça vient de changer. On aura bien un congé aidant indemnisé, mais Nathalie veut savoir comment obtenir ce congé indemnisé dans les plus brefs délais.
À tout à l'heure.
L'économie côté emploi maintenant. Des indemnités chômage pour les salariés démissionnaires. C'était l'une, souvenez-vous, des grandes promesses d'Emmanuel Macron. Eh bien, ça y est, on sait désormais quand et comment.
Sacrée promesse, hein. Page 9 du programme. Nous permettrons à tous les travailleurs d'avoir droit à l'assurance chômage avec un message archi répété pendant les meetings du candidat Macron. Ça, c'était la promesse. Qu'est-ce qu'il en reste? Une peau de chagrin.
Dès son arrivée,
Bernard Vivier,
le président de la République Emmanuel Macron a dit aux organisations syndicales et patronales: vous allez négocier sur ceci, ceci, cela, et voici les conclusions auxquelles vous devrez arriver.
Directeur de l'Institut supérieur du travail.
Ils n'y sont pas arrivés. Le président de la République dit: vous n'êtes pas capable, je prends la copie, ouais, je la fais moi-même. Nous vivons aujourd'hui la fin d'un modèle français d'assurance chômage et qui fait aujourd'hui l'objet d'une étatisation à dominante budgétaire.
Eh bien, l'UNEDIC nous annonce que la donne va changer pour la moitié des chômeurs.
soit 1 300 000 personnes. 9% des chômeurs n'auront plus aucun droit. 12% d'entre eux auront des droits, mais ils les toucheront plus tard. Et 11% auront des droits, mais ils les toucheront pendant moins longtemps.
Le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale,
Yves Verrier,
a dit « On n'en a pas fini avec le chômage de masse qui enferme dans la précarité ».
Secrétaire général de Force Ouvrière.
Et la réponse, c'est on taxe les salariés précaires, on réduit leurs droits, on rend plus difficile l'entrée dans le droit.
Il y a un volet qui, pour moi, va dans le bon sens.
Geoffroy Roux de Bézieux.
Qui est celui de l'indemnisation.
Président du MEDEF.
Il y avait un certain nombre de cas où on pouvait gagner en revenus quasiment autant en travaillant qu'en ne travaillant pas. Et c'est un vrai problème pour ceux qui cherchent un emploi.
La seule logique, c'est une logique budgétaire sur le dos des chômeurs.
Laurent Berger.
C'est 1,4 million de personnes qui vont subir la réforme de l'assurance chômage.
Secrétaire général de la CFDT.
Ils vont subir quoi? Soit un raccourcissement de leurs droits, soit une baisse d'indemnisation pour certains de 25 à 50%. Dès le départ, moi j'ai dit, la CFDT a dit, ça va être une tuerie.
Moi je crois pas du tout que ça sera ce qu'il prédit.
Muriel Pénicaud.
Le fait de travailler 6 mois au lieu de 4 mois en 2 ans.
Ministre du Travail.
Les règles ont été dures, si.
Oui, c'est un peu plus dur, mais dans un contexte où il y a l'emploi, que l'assurance chômage, elle sert de filet de sécurité entre deux emplois. C'est pas un but à vie pour personne d'être à l'assurance chômage. Mmh. C'est pas un métier, l'assurance chômage.
Voilà, c'est donc vendredi prochain, 1er novembre, qu'entre en vigueur la réforme de l'assurance chômage décidée par décret l'été dernier, après l'échec des négociations entre les partenaires sociaux. Une réforme qui introduit des droits nouveaux, mais durcit les règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Réforme équilibrée, selon la ministre, on vient de l'entendre, les syndicats n'étant pas de cet avis, bien sûr. Alors, avant d'en débattre, comme il se doit, un état des lieux avec vous, Vincent Grimaud, d'Alternative Économique. Que prévoit donc en gros ce nouveau système?
Donc effectivement, le nouveau système, il sera en trois temps. Le premier temps, c'est vendredi, c'est le 1er novembre. Et donc, effectivement, c'est essentiellement le durcissement des conditions d'allocation. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, on durcit les conditions pour toucher des allocations chômage.
Il faudra avoir travaillé 6 mois dans les 2 dernières
plus,
années.
Etc. On pourra moins recharger de droits qu'avant. Et puis, pour les cadres, les allocations baisseront plus vite. Dès le 7e mois, si on n'a pas retrouvé de travail, les allocations baisseront. La seule avancée pour les chômeurs de ce package de vendredi, c'est les indépendants et les démissionnaires qui pourront éventuellement toucher des allocations chômage. Mais attention, les conditions sont si restrictives que ça va concerner entre 15 et 30 000 démissionnaires par an et 30 000 indépendants par an, autrement dit quasiment personne. Le deuxième gros bloc arrive le 1er avril 2020. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est une mesure assez technique et pas très médiatique, mais c'est un changement de calcul sur ce qu'on appelle le salaire journalier de référence, ce qui détermine en fait le montant des allocations. Donc c'est très technique et très très compliqué à expliquer, mais grosso modo ce qu'il faut retenir, c'est que ça va permettre d'économiser 1 milliard par an pour l'assurance chômage, et donc c'est 1 milliard d'euros en moins par an pour les chômeurs, et notamment pour les chômeurs précaires. Donc c'est là que va être le gros de la réforme en réalité, c'est là que ça va faire le plus mal. Et puis 2021, la fameuse contrepartie, le système de bonus-malus que les entreprises devront payer si elles embauchent trop de CDD et inversement, elles seront aidées si elles embauchent peu de CDD. Ce dont le MEDEF ne voulait pas, mais c'est un bonus-malus très faible en montant et surtout qui est réservé seulement à 7 secteurs, hein, dont l'agroalimentaire et le transport. Donc, c'est des contreparties d'abord très tardives et très faibles.
Alors, plus de contrôle des chômeurs d'un côté, mais plus d'accompagnement de l'autre. Hein. Il y aura aussi des recrutements à Pôle emploi, 2 demi-journées pour aider les demandeurs d'emploi à chercher un travail. Est-ce cet équilibre dont parle Muriel Pénicaud, Nico, Emmanuel Le Chypre, dont vous parliez aussi tout à l'heure?
Il y a des sujets qui sont effectivement des sujets spécifiquement français auxquels s'attaque cette réforme et qui sont plutôt bien traités. Mais globalement, il faut rappeler que cette réforme, elle a 2 objectifs. Il y a un objectif financier qui est de rétablir les comptes de l'assurance chômage. Or, c'est là qu'on a déjà un premier problème. C'est que si on regarde le seul aspect assurantiel, c'est-à-dire en gros, si vous prenez d'un côté toutes les cotisations versées et de l'autre côté toutes les prestations versées pour le chômage, vous aviez un système qui était équilibré et qui n'était déficitaire que parce que il prend en compte les intermittents, ce qui est un choix politique, que parce qu'il finance Pôle emploi, qui prend aussi en compte le phénomène de la permittence, les frontaliers, etc. Donc ça, c'est un premier sujet.
Donc pas besoin d'une réforme.
Là-dessus, sur l'aspect financier, c'était quand même assez contestable. Après, il y a un vrai sujet qui est, est-ce que quand vous durcissez les conditions du chômage, vous remettez les gens plus vite au travail.
C'est l'objectif.
Qui est la philosophie profonde. Et là, il y a quand même plusieurs bémols à apporter. D'abord, il faut rappeler que vous n'avez que la moitié des chômeurs qui sont indemnisés, et que sur la moitié qui est indemnisée, il y en a en gros la moitié qui a 500 euros par mois à peu près. Donc c'est quand même assez peu. Le vrai sujet, qui est finalement la vraie spécificité française, qui était la vraie spécificité française de l'indemnisation du chômage, c'était pas la générosité du système entre guillemets, qui encore une fois était une assurance. C'est-à-dire que on trouvait que les gens touchaient beaucoup, mais ils cotisaient beaucoup aussi en contrepartie. C'est cette affaire, effectivement, de ce qu'on a appelé d'abus des contrats courts, où on était quand même installé dans un système assez pervers, dans lequel vous aviez une espèce d'alliance tacite entre les patrons et les salariés, où le fait de pouvoir travailler finalement à temps partiel vous permettait d'accumuler des droits qui faisaient que, en faisant un nombre d'heures qui correspondait à un mi-temps, vous pouviez toucher l'équivalent des trois quarts de ce que touchait un salarié à temps plein. Et là, c'est vrai qu'on avait dans ce système, alors 800, 900 000 personnes qui étaient installées dans ce système qui coûtait extrêmement cher à l'assurance chômage et qui est un dévoiement du système de l'assurance chômage, puisqu'en gros, il y a des gens qui travaillent à mi-temps et qui touchent plus d'argent, qui se font un complément de salaire avec l'assurance chômage. Et ça, fallait y remédier. Donc ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Par contre, là où on peut effectivement être un peu déçu, c'est que sur ce côté bonus-malus, hein, cette idée de pénaliser les entreprises qui abusent de ces contrats courts, bah en fait le MEDEF s'en sort quand même très bien, puisque ça ne concerne que cette branche et que beaucoup de branches qui abusent de ces contrats courts, le BTP, la santé, etc., ne sont pas concernées par ce bonus-malus et les petites entreprises non plus.
Bon, le gouvernement a cherché à satisfaire les deux côtés. Il a finalement mécontenté tout le monde, Vincent Grimaud.
Je pense que le MEDEF est très satisfait, hein, en dépit des éléments de communication, évidemment. Je veux dire, c'est très favorable pour eux. Et évidemment, il faut le redire, ce sont les chômeurs vraiment les grands perdants de cette réforme, c'est évident. Emmanuel a très bien décrit à la fois l'absence d'urgence financière et puis ceux qui vont payer. Rappelons quand même, c'est sur les 2,6 millions de gens qui touchent une allocation, 1,3 million vont être touchés, 230 000 n'auront pas. Ne pourront tout simplement pas ouvrir de droits. 50 000 cadres seront concernés par la baisse de leurs allocations et 1 million de personnes vont perdre parce que le calcul du salaire journalier de référence va changer. Donc c'est pour 1,3 million de personnes, la conséquence elle est concrète tout de suite. Et donc
ça ne les incitera pas à retourner plus vite au travail, comme le disait Emmanuel.
Exactement. Il y a une étude qui vient de sortir, ça tombe bien, une étude de deux chercheuses françaises qui vivent aux États-Unis qui ont suivi le parcours de 500 000 demandeurs d'emploi français et qui montre que plus la date butoir approche de fin de droit, eh bien plus les demandeurs d'emploi se mettent à faire des candidatures un peu tous azimuts sur des postes qui ne leur correspondent pas. Et donc on va se retrouver dans une situation comme au Royaume-Uni où parce qu'on a fliqué les chômeurs, eh bien il faudra qu'ils acceptent des offres d'emploi qui leur correspondent pas, qui sont souvent mal payées et surtout qui sont peu productives. Et donc on va se retrouver avec une situation où on va perdre de la productivité et où au final on va se retrouver avec des millions d'emplois un peu précaires donc une situation où certes le taux de chômage va baisser, de fait, mais le taux de pauvreté, lui, ne va pas baisser. Or, il faut voir quel est l'objectif politique et le projet politique derrière. Si c'est de baisser le taux de pauvreté et de remettre les gens au travail, c'est pas du tout la mesure qu'il fallait faire.
Il y a une précarisation, en fait, hein, des plus faibles. C'est ça, quand même, je trouve le gros point noir de cette réforme. C'est que d'abord, il y a cette idée que si les gens travaillent pas, c'est un peu pas leur choix, mais que grosso modo, s'ils voulaient, ils pourraient retrouver du boulot facilement. Or, on voit bien que ça n'est pas la réalité. Quand vous voyez le problème d'inadéquation entre l'offre et la demande de qualification, bah, vous voyez bien que ça n'est pas le cas. En plus, la plupart des études vous montrent que chercher du travail, ça coûte cher, hein, et que vous retrouvez d'autant plus du travail que vous êtes bien indemnisé. Et qu'est-ce qui se passe quand vous raccourcissez ou que vous mettez des allocations chômage dégressives? Et ben effectivement, vous avez une incitation des gens à reprendre un emploi coûte que coûte, quitte à reprendre un emploi pour lequel ils sont trop qualifiés, ce qui renforce encore la difficulté des moins qualifiés à trouver de l'emploi. Donc ça c'est vraiment un problème. Et puis moi, l'argument que je trouve extrêmement perturbant, on l'a entendu, Muriel Pénicaud, elle dit ah bah oui, mais en ce moment la conjoncture est bonne, ça va bien, il y a pas beaucoup de chômage, donc on peut durcir les conditions. Mais oui, mais qu'est-ce qui va se passer à la prochaine récession? Parce qu'elle viendra, la prochaine récession. Et donc le bon système que recommandaient beaucoup d'économistes, c'était non pas de faire cette dégressivité, mais de faire un système dans lequel finalement votre niveau d'indemnisation fluctue en fonction de la conjoncture économique. C'est-à-dire que quand ça va très mal et qu'il y a beaucoup de chômeurs et que c'est dur de retrouver un emploi, bah on est plus généreux sur les conditions d'indemnisation. En revanche, quand il y a plus de croissance, que le chômage est faible, et ben bah là on durcit les conditions d'indemnisation.
C'est exactement ce qui se passe. Dans la philosophie de la ministre, le marché du travail est en train de repartir.
Mais qu'est-ce qui va se passer quand ça va aller mal? Le nouveau système d'indemnisation du chômage n'est pas designé. N'est pas fabriqué pour tenir compte de ces fluctuations de l'activité. Et ça, c'est aussi un reproche qu'on peut lui faire.
Vincent Grimaud, on peut ajouter à cette réforme, puisqu'on arrive vers la fin du débat, un autre volet, c'est pas tout à fait la même chose, mais la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, qui vont aussi entrer en vigueur, qui participent un peu de cette philosophie générale. C'est d'ailleurs le même texte.
C'est la loi pour choisir son avenir professionnel, la liberté de choisir son avenir professionnel. Évidemment, la formation, tout le monde est pour. Je veux dire, on a tous à y gagner, quel que soit son niveau de diplôme. Ça fait monter l'économie en gamme, etc. C'est très bien. Mais à court et à moyen terme, la formation a peu d'impact ou même pas d'impact du tout sur l'emploi. Pourquoi ? Parce que le vrai sujet de l'emploi, c'est la démographie. C'est combien de personnes sont dans la population active, c'est-à-dire travaillent ou cherchent à travailler. Et nous, eh bien, on a une population assez jeune et puis des réformes des retraites qui repoussent l'âge de départ à la retraite. Donc, on a plus de gens qui cherchent un travail ou qui en ont un. Et du coup, pour que le chômage ne stagne, il faut qu'on crée 100 000 emplois par an. Si on crée 50 000 emplois une année, on va se dire c'est bien, mais le chômage, il va augmenter. Donc en fait, il faut créer énormément d'emplois. Et bonne nouvelle, c'est ce qu'on a fait sur les trois dernières années. On a créé environ 200 000 emplois par an, ce qui est une belle performance. Mais si vous voulez, l'ordre de grandeur est très très loin. Pôle emploi regarde un petit peu les difficultés de recrutement et les offres d'emplois non pourvus. Et Pôle emploi nous dit il y a entre 100 000 et 200 000 emplois non pourvus en France, faute de candidats compétents.
Problème de formation.
Voilà, mais 100 000 à 200 000 emplois face à 3,3 millions de chômeurs, il y a un rapport de 1 à 30 qui est complètement déséquilibré. Donc ce n'est pas à court terme et à moyen terme la formation qui nous permettra de régler le problème. Et donc faire croire que en fait tout repose sur le problème de cette loi, en fait, c'est que qu'est-ce qu'elle nous dit au fond ? C'est si vous voulez vraiment trouver du travail, vous le trouverez et formez-vous par vous-même. Hein, c'est le
en traversant la rue.
Voilà, ou le compte personnel de formation. Vous allez avoir sur votre smartphone la possibilité de choisir votre formation, etc. Très bien. Mais faire croire que chacun est responsable de sa propre situation, qui est une philosophie libérale, c'est un petit peu facile parce que dans un contexte où il y a 100 000 emplois d'un côté disponibles et 3,3 millions de demandeurs d'emploi de l'autre, on voit bien que le rapport est complètement déséquilibré.
Non, mais il y a quand même un problème d'adéquation massif entre les besoins des entreprises et la formation des salariés. Aujourd'hui, vous avez quand même 80% des chômeurs inscrits à Pôle emploi qui ont au mieux le baccalauréat. La formation, le niveau de formation même des Français qui travaillent, il est extrêmement médiocre. C'est-à-dire, si vous prenez l'équivalent de l'enquête qui est faite par l'OCDE sur les élèves qu'on appelle l'enquête PISA, il y a la même enquête qui est faite sur les gens qui travaillent, on est parmi les plus mauvais. Donc la formation des salariés en France, elle est très mauvaise. Leur niveau est mauvais. Donc oui, il faut aller mettre le paquet sur la formation, parce que le capital humain, c'est la priorité des priorités. Hein, c'est dans les pays où vous avez le niveau d'emploi le plus élevé que vous avez les gens les mieux formés, etc. Donc ça, c'est vraiment le sujet.
Ça fait pas 20 ans qu'on le dit, ça.
Ça fait 20 ans qu'on le dit. Cette réforme de la formation professionnelle, si mes comptes sont bons, ça doit être la 7e depuis 2004. Il y avait un système dans lequel il y avait quand même beaucoup d'organismes qui se goinfraient pour former ceux qui en avaient le moins besoin, hein, c'était ça le caractéristique de la réforme ancienne, c'est-à-dire les gens qui étaient déjà en emploi, mais rien, pas grand-chose pour les chômeurs, les temps partiels, les seniors, etc. Donc là, on va essayer de rééquilibrer un peu tout ça, mais c'est vrai que la formation, c'est très très long, parce que c'est aussi beaucoup un problème d'état d'esprit, de psychologie. Et là, on peut se dire que ça peut bouger plus vite qu'on le croit. Regardez l'apprentissage, par exemple. L'apprentissage, si vous regardez depuis cette année, le bond de nombre d'élèves inscrits en apprentissage, il suffit d'interroger les patrons de CFA pour vous dire que même l'état d'esprit.
Et les entreprises vont pouvoir choisir leur CFA.
Et surtout, les entreprises vont aussi pouvoir refaire ce qu'on faisait il y a 30 ans, c'est-à-dire, vous savez, il y avait un terme qui existait il y a 30 ans, c'était ingénieur maison. Tout le monde a connu ça dans sa famille. C'est des gens qui étaient formés dans l'entreprise. Ça avait disparu parce que quand vous aviez beaucoup de chômeurs, les boîtes, ça n'avait plus besoin de former. Là, ça peut aller très vite. Les outils modernes existent, hein, Internet, toute la formation qu'on peut faire comme ça avec les tutos, etc. Ça peut aller très vite. Et donc, il y a espoir que ça aille vite. Mais c'est 2, 3, 5 ans avant d'avoir le moindre effet. Et quand on aura attaqué l'indemnisation du chômage et la formation, il restera à s'attaquer à toutes les autres causes du chômage, hein, qui
le
sont
partage du temps de travail,
le manque de TI, le chômage de mobilité, etc.
Et le partage du temps de travail, puisqu'on en incite les seniors à travailler plus longtemps, ce qui, évidemment, mécaniquement, prive des emplois de se créer.
Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est une vision comptable.
De quoi faire plein d'autres débats. Merci à vous. Vincent Grimaud d'Alternative Économique, Emmanuel Lechypre, BFM Business. Jeunesse. Dans un instant, on parlera de tout à fait autre chose, du mouvement de privatisation qui connaîtra dans les jours qui viennent une nouvelle étape. Mais d'abord, direction le Chili.
Enormes cañones de agua para dispersar a los miles de manifestantes que desafiando al presidente Sebastián Piñera siguen en la calle exigiendo cambios en el modelo económico.
Bonjour Justine Fontaine.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Correspondante de France Inter au Chili. Le Chili qui connaît depuis une semaine un mouvement social de grande ampleur, d'une ampleur inédite depuis la fin de la dictature Pinochet en 1990. Le président chilien Sebastián Piñera parlait pourtant de son pays au début de ce mois comme d'une oasis entourée de voisins en crise. Le Chili était présenté comme un modèle de croissance et de prospérité, mais une prospérité qui n'a pas également profité à tout le monde. D'où cette révolte des Chiliens.
Oui, et pour bien comprendre, il faut rappeler que dans les années 1980, le Chili a été le laboratoire de l'ultralibéralisme théorisé par les Chicago Boys, les économistes de l'université de Chicago aux États-Unis. Sans que les Chiliens aient leur mot à dire, le régime de Pinochet a mis en place à l'époque une série de réformes avec pour but de réduire au maximum la place de l'État dans l'économie. De nombreux services ont ainsi été privatisés, souvent laissés à la régulation du marché. L'exemple le plus frappant est celui des retraites. Le système par répartition, public et solidaire, a été remplacé par un système individuel par capitalisation. Les retraites des Chiliens sont gérées par des fonds de pension privés, un marché très lucratif pour ces entreprises, mais qui donne aux Chiliens des retraites misérables. L'eau, l'électricité ont aussi été privatisées, ainsi qu'une partie du système éducatif et de santé.
Et donc pendant des années, ce système a produit de la croissance, mais produit aussi de grandes inégalités.
Voilà, depuis la fin de la dictature, le Chili a connu 30 ans de croissance ininterrompue. La pauvreté a beaucoup baissé, c'est vrai, mais ce modèle n'a pas permis de redistribuer vraiment équitablement les fruits de la croissance. Le Chili est l'un des pays les plus inégalitaires de l'OCDE. Les 5% les plus riches accaparent plus de la moitié des richesses produites chaque année dans le pays. Les salaires de la plupart des Chiliens restent très bas, beaucoup s'endettent pour assurer les dépenses du quotidien, comme l'éducation des enfants, la santé ou encore le logement. Face aux manifestations qui ont tourné à l'émeute le week-end dernier, le président Sebastián Piñera a fait une série de promesses sociales. Aide pour les employés au salaire minimum, annulation de la hausse du prix du métro et du prix de l'électricité, ou encore revalorisation des minima vieillesse. Mais les manifestants demandent des changements plus profonds et continuent de protester dans tout le pays.
Justine Fontaine, correspondante de France Inter à Santiago. Merci. Les privatisations à la une, avant d'évoquer avec notre invité Martin Vial dans un instant les projets du gouvernement. En la matière, un peu d'histoire.
C'est le numéro 1 mondial de la boîte boisson, c'est le numéro 1 européen de l'aluminium, mais c'est le dernier jour pour devenir actionnaire de Pechiney.
Paribas, madame, monsieur, vous aurez prochainement la possibilité, vous aussi, d'en devenir actionnaire.
Et oui, c'était à la fin des années 80, le coup d'envoi d'un grand mouvement de privatisation qui ne s'est jamais démenti et va se poursuivre dans quelques jours avec la Française des Jeux. Depuis 30 ans, chaque gouvernement a cédé tout ou partie de ce qu'on appelle les bijoux de famille. Saint-Gobain, TF1, BNP, Renault, France Télécom, Air France, les sociétés d'autoroutes et bien d'autres. Après les vagues de nationalisation de l'après-guerre et celle de 1981, on peut parler d'un vrai changement de cap. Mais pourquoi? Comment? Quel bilan tirer de ces 30 dernières années? Et c'est un dossier signé Manuel Ruffez.
À qui d'autre que vous pouvait-on confier l'avenir de Renault?
Renault ouvre son capital.
Donnez-moi une bonne raison de devenir actionnaire de la CGE.
France Télécom ouvre à nouveau son capital. Pour bénéficier de tous les avantages, réservez vos actions dès maintenant.
On ne peut pas parler de ces 30 ans de privatisation sans dire un mot de ce qui a précédé. Et ce qui a précédé, dans les décennies d'après-guerre, et même dans les années de la gauche de François Mitterrand au pouvoir dès 1981, ce sont les nationalisations majeure, massive. 1986 et les premières privatisations marquent un véritable changement d'orientation économique. Un point d'histoire donc, d'abord, avec Michel Margueras, professeur d'histoire économique contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Pour avoir une mise en perspective historique, il faut articuler privatisation et nationalisation. Les nationalisations ont dominé un peu le paysage économique et politique de la France des années 30 et surtout 45 jusqu'aux années 70. Et depuis les années 80, c'est plutôt les privatisations qui l'emportent.
Qu'est-ce qui fait qu'en 1986, tout à coup, on change de doctrine?
Il y a trois raisons. La première raison, c'est le fait que les dirigeants de gauche s'aperçoivent que ces entreprises sont dans une situation financière difficile. Il y avait Rondepoulenc, il y avait Péchinet, il y avait Saint-Gobain. Alors Saint-Gobain, elle, allait plutôt bien, mais les autres allaient pas très bien. La CGE, au fond, loin de lutter contre le chômage, une partie de ces entreprises, à partir de 82-83, vont en fait réduire leur personnel. La deuxième raison, c'est le fait que la droite, dans l'opposition, se sent déliée de sa fidélité aux nationalisations de 45. Pourquoi ? Parce que maintenant, ce sont des nationalisations de gauche et non pas des nationalisations consensuelles comme elles l'étaient avec De Gaulle en 45. Et donc, ils considèrent que désormais, au fond, ce secteur économique public n'a plus de raison d'être. Et puis, la troisième raison, c'est le fait qu'une fois arrivé au pouvoir en 86, lorsqu'il gagne les élections législatives, la droite qui était jusque-là dans l'opposition va au fond considérer que le moment est venu de privatiser des entreprises qui ont été remises quand même à flot grâce à la nationalisation. Et elles sont revendues par la droite en 86, à un bon prix d'ailleurs, et ce qui va permettre de soulager les finances publiques sans avoir à augmenter les impôts. Et puis alors, après 93, tout le monde privatise. Plus ou moins, mais tout le monde, c'est-à-dire la droite en 93 jusqu'en 97, mais Jospin en 97 jusqu'en 2002, Chirac de 2002 à 2007, Sarkozy de 2007 à 2012 et Hollande de 2012 à 2017. Grosso modo, j'ai calculé, puisque vous me demandiez le chiffre, je pense que dans les 20 ans qui nous séparent de 1993 jusqu'en 2012, on a à peu près une centaine de milliards sur 20 ans, voyez.
Est-ce qu'on peut tirer un bilan de 30 ans de privatisation en France ? Bon ou pas ? Et pour qui ? L'État, les entreprises, les emplois, les Français, nous ? On aura du mal sur ce sujet à trouver un juge de paix. Alors voilà, on vous propose deux économistes aux avis opposés, deux économistes d'obédience différente, et à chacun ses arguments.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire un peu votre nom, votre prénom et votre fonction ?
Alors, je suis Jean-Marc Daniel, je suis professeur émérite d'économie à l'ESCP Europe, et sur le plan du positionnement économique.
Voilà, on peut vous situer.
Je suis réputé pour être libéral.
Est-ce que, d'après vous, on a bien fait de privatiser ?
Ah, je pense qu'on a bien fait de privatiser pour trois raisons. La première raison, c'est que le secteur public français s'était constitué un peu au hasard de l'histoire. Et une partie n'avait aucun fondement économique. C'était politique et punitif. Et donc, il y a patrimoine public qui s'était constitué sans véritable cohérence et logique économique, donc il valait mieux défaire ces nationalisations. La deuxième raison, c'est parce que je pense que c'est la Constitution qui le dit. Normalement, ce qui doit relever du domaine public, c'est ce qui est en situation de monopole. Or, beaucoup de ces entreprises qui ont été privatisées n'étaient pas en monopole. C'est le cas des banques qu'on a privatisées, et donc on pouvait tout à fait les remettre sur le marché, sachant que l'État peut toujours assurer un contrôle sur les entreprises par la définition de règles et par la fiscalité qui leur impose. Et le dernier élément qu'on met pas souvent en avant, mais je trouve que l'État a trouvé une forme de liberté par rapport à un certain nombre de secteurs d'activité. Je vais prendre un exemple très concret. Pendant très longtemps, l'État était propriétaire du service des tabacs et des allumettes, et pour être sûr que les gens achetaient du tabac, il distribuait gratuitement aux appelés du contingent des cigarettes. Donc il était trafiquant de drogue et il organisait le trafic de drogue en créant l'addiction. Il a fallu que l'Europe lui dise « mais ça perturbe la concurrence » pour qu'il commence à prendre des mesures. À l'époque, c'était Simone Veil quand même qui avait pris ces mesures au nom, elle, de la santé publique. Maintenant, la vente du tabac est libre, la production de tabac est assurée par des entreprises qui sont en concurrence et l'État peut mener une politique de lutte contre le tabagisme.
Avec 30 ans de recul, on peut dire « il fallait ».
Il fallait privatiser, je crois qu'il faut continuer. Quand on regarde au niveau mondial, ça continue. Et ce qui est frappant, c'est que il n'y a pas de vraie contestation. Il n'y a pas de pays où c'est véritablement remis en cause en tant que tel. Il n'y a pas de vrai mouvement politique qui assoit son programme sur on va renationaliser. Au départ, ça a été, je pense, une décision pratique. Ensuite, c'est devenu une idéologie. Et je pense que maintenant, c'est raisonnable. C'est une action réfléchie.
Autre lieu, autre interlocuteur, autre analyse. On est dans un café ici, près de Tolbiac, à Paris, et pour cause, on a rendez-vous avec Benjamin Coriat, professeur de sciences économiques à l'Université Paris 13, à deux pas d'ici. Et Benjamin Coriat, c'est un des fondateurs des économistes atterrés. Ils se définissent eux-mêmes, ces économistes atterrés, par leur opposition aux politiques néolibérales.
Est-ce qu'on peut tirer aujourd'hui un bilan de 30 années de privatisation? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est possible de dire quelque chose comme ça?
Ce qui est certain, c'est que lorsque les lois de privatisation ont été faites, on est parti d'un secteur public formidablement large. Et donc, c'est tout le système productif français qui a été impacté en profondeur. On a lâché à travers la France et la planète des immenses entités avec des succès très variés. Certaines sont devenues des stars mondiales, mais sans que l'économie française en ait véritablement bénéficié, d'autres ont été la proie du capitalisme mondial et ont purement et simplement disparu. C'est le cas d'Alcatel, c'est le cas de Pechiney. Alstom a été mangé par General Electric, vous voyez ce qu'il en reste. Bon, la puissance publique disposait, outre ses moyens de puissance publique, d'un immense secteur industriel dont elle pouvait faire un instrument pour déployer sa politique industrielle. Et au-delà, sa politique sociale, etc.
L'État a perdu ses capacités d'intervention sur l'économie.
Absolument, complète. Le résultat final, c'est que aucun pays en Europe, même l'Angleterre, n'a connu une désindustrialisation aussi forte que la France. Donc, on peut dire, oui, les privatisations se sont traduites par, d'un côté, la constitution de quelques fleurons internationalisés qui font qu'aujourd'hui, la France est le pays qui verse proportionnellement les dividendes les plus élevés, 50 milliards par an, d'un côté, et de l'autre côté, une désindustrialisation massive. De ce point de vue, oui, c'est catastrophique. La France souffre d'avoir perdu son industrie comme personne au monde.
Il y avait un dernier aspect à ces privatisations. Les dirigeants de l'époque pensaient sincèrement sans doute qu'en distribuant aux Français des actions par millions, ils allaient y prendre goût. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Ça revient dans l'actualité. Certains aujourd'hui défendent encore cette idée, au moins par patriotisme.
Charles-Henri Douvigny, je suis président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs. Cette fédération a 50 ans et elle rassemble 120 000 membres qui mettent une partie de leur épargne dans les entreprises françaises. Oui, c'est toujours bon parce que justement ça permet aux Français de s'approprier ces entreprises et en 30 ans, un certain nombre de valeurs, que ce soit BNP Paribas, que ce soit la Société Générale, que ce soit Orange même, ou d'autres, les investisseurs ont gagné de l'argent. Parce que une entreprise, au-delà du cours de bourse et de son augmentation, ont servi des dividendes. Et puis, certains ont pu participer aux privatisations des autoroutes, qui ont été revendues ensuite au secteur privé. Et là, ils ont pu faire une culbute. Donc, c'est toujours une bonne initiative. Il est important que les entreprises françaises soient détenues par les Français dans une conjoncture mondiale forte actuellement et une compétition mondiale importante. Il faut que nos entreprises appartiennent aux Français. Et donc c'est le rôle des Français aussi de devenir actionnaires.
Privatisation et après, c'était un dossier signé Manuel Ruffez.
Tous les samedis à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Yves Decaen.
Notre invité cette semaine est le représentant de l'État au sein des entreprises, entreprises dont l'État détient une part majoritaire ou pas. Il est l'incarnation de l'État actionnaire, commissaire aux participations de l'État. Bonjour Martin Vial.
Bonjour Yves Decaen.
Alors le 7 novembre, on sera donc lancé la privatisation partielle de la FDJ, en attendant plus tard ADP et sans doute Engie. On va y revenir d'abord à un état des lieux peut-être de cet État actionnaire, de moins en moins gros au fil des ans. L'État est aujourd'hui présent dans combien? Une petite centaine d'entreprises?
Un peu moins, oui. 88 entreprises. Oui.
Dont certaines sont au CAC 40.
Dont une douzaine au CAC 40.
En termes d'actifs, c'est 80 milliards, 100 milliards?
C'est à peu près 80 milliards d'entreprises cotées et 110 milliards sur le total du portefeuille.
Alors ces 30 dernières années, on vient de l'entendre dans le reportage, hein, plus de 130 milliards d'actifs publics ont été cédés. Pourquoi ce désengagement auquel, on l'a dit, hein, tous les gouvernements se sont prêtés? Pourquoi ça répond à quelle philosophie?
Je crois que, en tout cas aujourd'hui, il y a deux constats. Le premier, c'est que l'environnement des finances publiques a considérablement changé. Il faut se souvenir qu'en 1995, la dette représentait 56% du PIB. Aujourd'hui, nous sommes à 98-99. Et par conséquent, tout euro consacré à l'économie doit être consacré de façon extrêmement sélective. Puis la deuxième caractéristique, c'est la révolution numérique, la révolution technologique. Les entreprises doivent investir massivement, dans cette révolution, dans cette disruption. Et l'État n'est pas toujours capable de suivre, en tout cas pas dans les participations historiques. C'est la raison pour laquelle nous avons créé, à la demande de Bruno Le Maire, nous avons créé un fonds pour l'innovation et l'industrie doté de 10 milliards d'euros et qui va investir dans des nouvelles entreprises et on espère qu'ils deviendront demain des licornes.
Oui, alors ça aussi, justement, c'est un changement de doctrine. À l'origine, les cessions d'actifs étaient destinées au désendettement de l'État.
Oui, nous participons aussi au désendettement. La création du fonds pour l'innovation et l'industrie, procède d'un mécanisme qui permet de réduire le besoin de financement également de l'État, puisque ces 10 milliards d'euros sont gelés à l'agence France Trésor et permettent ainsi de réduire le besoin de financement de l'agence France Trésor.
Alors est-ce que ce n'est pas lâcher la proie pour l'ombre, hein, on l'a beaucoup dit, on l'entend parmi les opposants à ces privatisations. La Française des Jeux, par exemple, hein, rapporte plus de 3 milliards à l'État chaque année. Que rapportera-t-elle ensuite?
Aujourd'hui, en effet, le prélèvement fiscal réalisé sur la Française des Jeux, c'est 3 milliards et demi. La loi Pacte, qui a été votée par le Parlement au printemps dernier, va garantir, préserver ces 3 milliards et demi, et en réalité, va permettre d'accompagner dans le temps, en même temps que la croissance de la FDJ, une croissance de cette fiscalité. Donc la privatisation ne va pas toucher à cette fiscalité, au contraire, elle la préserve, car nous avons inscrit, dans le cadre de la loi Pacte, un nouveau cadre fiscal.
Mais en termes de dividendes, ça ne rapportera plus rien à l'État.
En termes de dividendes, aujourd'hui...
Sur le long terme, est-ce que l'État n'est pas perdant?
La privatisation, c'est la cession de 50% sur les 72% que nous cédons. Donc nous allons garder 20%, nous allons toucher toujours les dividendes sur ces 20%. Cela étant, évidemment, l'opération de privatisation sera sur le plan patrimonial réussie dès lors que la valeur, ce qu'on appelle la valeur actuelle, la valeur cumulée des dividendes futurs, sera inférieure à la valeur de cession à l'opération de privatisation.
Et ça, c'est aussi un pari.
C'est pas un pari. Nous faisons cette opération en ayant des conditions de marché, si elles se maintiennent dans les prochaines semaines, qui permettront en effet d'aboutir à ce résultat.
Et une vente qui devrait rapporter entre 1 milliard et 1 milliard et demi?
Je ne donnerai pas le chiffre aujourd'hui. Nous souhaitons que la valorisation soit la plus grande possible. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'intérêt des investisseurs institutionnels est considérable. Et puis surtout, nous allons offrir la possibilité aux Français de devenir actionnaire de la FDJ et de l'ensemble de ses activités de jeu.
Oui, c'est la première fois d'ailleurs, hein, depuis 14 ans, que des cessions d'actifs publics sont proposées aux particuliers.
Hein. En effet, mais pour deux raisons. La première, c'est que ceci s'inscrit dans une réforme fiscale qui vise à inciter les épargnants à investir en actions et dans les entreprises de façon générale, et puis animer la place de Paris. C'est la raison pour laquelle le ministre a annoncé il y a quelques semaines qu'il y aurait deux systèmes d'incitation pour les particuliers. Une action gratuite pour 10 souscrites à condition qu'elle soit maintenue pendant 18 mois, et puis ce qu'on appelle une décote de 2% sur le prix de l'action au moment de l'achat.
Donc vous faites tout pour que ce soit vraiment un grand succès populaire.
Oui, mais parce que nous souhaitons en effet relancer l'actionnariat individuel à un moment où, par ailleurs, les rendements des titres obligataires sont très faibles.
Et de ce succès dépendra la suite des projets de privatisation ou ça n'a rien à voir?
C'est un moment important, puisque, comme vous l'avez souligné, c'est la première fois qu'une opération de privatisation se produit depuis un peu moins de 15 ans. Et puis, il y a d'autres opérations qui ont été prévues par la loi Pacte, ADP notamment. Nous avons par ailleurs des opérations de respiration du portefeuille, parce que nous avons simplifié la doctrine de l'État actionnaire.
Respiration du portefeuille?
Tout simplement, ça veut dire que nous avons commencé déjà à réduire des participations dans des entreprises privées, mais dans lesquelles nous avons une participation. Ça a été le cas de Renault en 2017, ou ça a été le cas de Safran.
Alors rappelons qu'une procédure de RIP, hein, référendum d'initiative partagée, a été lancée par les oppositions s'agissant du projet de privatisation d'ADP, Aéroports de Paris, une pétition en ligne qui approche aujourd'hui les 900 000 signatures. Il en faudrait 4,7 millions pour imposer au gouvernement de revoir le projet ou de le soumettre à référendum. Vous comprenez cette mobilisation qui marque finalement un véritable attachement des Français à l'idée du service public?
Je ne vais pas me prononcer sur le RIP, il s'agit d'une démarche parlementaire qui a été validée par le Conseil constitutionnel. Parallèlement, la loi PACTE qui autorise la privatisation d'ADP a été votée aussi par le Parlement et validée par le Conseil constitutionnel. Donc rendez-vous au mois de mars, à la fin de cette période de consultation et de récolte de signatures. Ce que je voudrais dire, il y a sans doute une petite incompréhension sur les intentions sur la privatisation d'ADP, c'est que le maître mot, c'est la régulation. C'est une entreprise régulée, et c'est une entreprise régulée dans laquelle nous avons inscrit dans la loi des dispositions qui autrefois étaient du domaine du décret, étaient, disons, moins solides. Et donc on l'a inscrit dans la loi, et notamment, une critique qui est adressée à cette opération de privatisation, qui est de dire « ça va se passer comme pour les autoroutes ». La réalité, c'est que ça n'a rien à voir, puisque tous les 5 ans, l'État et les aéroports, et en particulier l'aéroport de Paris, vont renégocier le contrat, ce qu'on appelle le contrat de régulation économique, et c'est à la main de l'État. Et la loi a prévu que si l'entreprise et l'État ne se mettent pas d'accord, à la fin des fins, c'est l'État qui a le dernier mot.
Mais on peut faire le même calcul qu'avec la FDJ. Hein, l'ADP, c'est 170 millions de dividendes reçus par l'État, bon an, mal an. Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer la poule aux œufs d'or?
Dans cette perspective, là aussi, cette opération de privatisation, si elle se produit, n'aura d'intérêt que dès lors que la valeur de cession sera supérieure au dividende. Je voudrais simplement dire que le rendement, c'est-à-dire le rapport entre le dividende et la valeur de l'action, sur ADP est un des plus faibles du portefeuille. Simplement parce que l'action a beaucoup progressé depuis 2006.
Parce que vous citiez les exemples, mauvais exemples des autoroutes, on a quand même ça en tête. On a l'impression quand même que l'État est un mauvais négociateur et qu'il se fait toujours avoir.
Ce n'est évidemment pas...
C'est pas votre avis, évidemment.
Ce n'est évidemment pas mon avis, mais je viens de le dire. Précisément, on a prévu un mécanisme qui fait que tous les 5 ans, l'État reprend la main sur le contrat de régulation économique. Ouais.
Et quant au pouvoir régalien, parce qu'il n'y a pas que les considérations économiques, il y a aussi des questions plus essentielles. Hein. Pour la FDJ, c'est le contrôle de la légalité des jeux, de la maîtrise des addictions. Pour ADP, c'est évidemment la sécurité, la douane. Vous répondez à ça?
Mais rien n'est changé. Je veux dire, les aéroports de Lyon, de Nice sont des aéroports privés et la police des frontières fait son travail. On n'a jamais critiqué le fait que Eurotunnel est une infrastructure totalement privée. Et personne n'a jamais considéré que la sécurité de l'accès et du passage des frontières vers l'Angleterre, vers le Royaume-Uni, était quelque chose de fragile.
Encore un mauvais exemple, Eurotunnel, pour les petits porteurs. Hein. Ils doivent en avoir un mauvais souvenir.
Bon, il s'agit là de la construction d'une infrastructure qui n'existait pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la propriété de l'entreprise n'a rien à voir avec les pouvoirs régaliens, les pouvoirs de police, qui seront toujours les mêmes. Et la loi a prévu précisément que ces pouvoirs seront totalement préservés et garantis.
D'autres projets, on parle maintenant de cession d'actifs à l'avenir pour Orange, Air France KLM, le secteur automobile, on sait déjà.
La doctrine dans ce domaine est très simple. Nous ne nous retirerons pas de ces entreprises s'il n'y a pas deux conditions qui sont pour ces entreprises qui ne sont pas régulées, qui sont réunies. La première, c'est d'avoir des actionnaires français et européens privés qui se substituent à l'État pour être sûr de maintenir les centres de décision, l'emploi, la R&D en France. Et la deuxième condition, c'est évidemment que ces opérations se passent à un moment qui soit favorable sur le plan patrimonial.
Merci Martin Vial, commissaire aux participations de l'État. Merci d'être venu dans On n'arrête pas l'écho. Du nouveau pour les aidants, un congé payé que viennent de leur accorder les députés, c'est ce dont vous nous parlez, Sandrine Foulon. Bonjour, rebonjour.
Bonjour Yves.
Hein, ma vie au boulot, comment obtenir dans les plus brefs délais un congé indemnisé, là tout de suite maintenant, pour aider un proche malade? C'est la question que vous pose Nathalie, cadre à Gennevilliers.
Alors oui, pour l'instant Nathalie, ça n'existe pas encore, à moins que votre convention collective ou votre accord d'entreprise soit très généreux. Aujourd'hui, dans le droit commun, si un de vos enfants de moins de 16 ans tombe malade ou qu'il est accidenté, vous pouvez demander accorder un congé pour enfant malade de 3 jours par an non rémunéré. Ce congé peut aller jusqu'à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si vous avez au moins 3 enfants à charge. Si vous étiez dans le public, Nathalie, ce serait plus favorable. Les agents ont 6 jours payés par an pour s'occuper de leurs enfants. Malheureusement, 3 ou 6 jours, ça ne suffit pas lorsqu'il faut s'occuper d'une personne âgée ou d'un proche atteint d'un handicap, d'une maladie grave. Les personnes qui aident un proche en perte d'autonomie, elles sont entre 8 et 11 millions dans ce cas-là, ont droit à un congé de 3 mois, mais il n'est pas non plus rémunéré. Bonne nouvelle, ça va changer. Les députés ont voté cette nuit une indemnité pour ce congé. Elle sera versée dans un an. Un aidant en couple touchera 43 euros par jour, 52 pour une personne seule, dans la limite de 3 mois sur toute la carrière. C'est déjà mieux qu'avant. La moitié des aidants travaillent, en majorité des femmes, et très peu demandent le congé actuel. Il pèse trop lourd dans le portefeuille.
Mais est-ce que l'employeur pourra refuser ce futur congé proche aidant?
Non, les salariés et les fonctionnaires y auront droit, même les chômeurs indemnisés, mais pas les indépendants. Point positif, ce congé comptera pour les droits à la retraite. L'employeur ne pourra pas dire non, mais il faudra quand même lui demander son avis 1 mois à l'avance. Ce qui ne résout pas le problème de l'urgence, Nathalie. Ce congé pourra-t-il être pris immédiatement avec un justificatif médical? Comment sera-t-il fractionnable? Beaucoup de modalités restent à définir. En attendant cette réforme, vous pouvez aussi compter sur le don de RTT de vos collègues pour accompagner un proche malade. Certains ont pu donner jusqu'à 150-170 jours de congé à un salarié de leur équipe. Encore faut-il travailler dans une entreprise assez conséquente. L'avenir est plutôt du côté d'un vrai statut de l'aidant. D'abord parce que la population vieillit, ensuite parce que le développement de la médecine ambulatoire repose de plus en plus sur l'aide des proches. Si les aidants sont amenés eux-mêmes à travailler plus longtemps, tout ça va devenir cornélien.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Merci.